היו בני אדם מרגישים.
Quand le rav vous répond, le rav Michael Abessera répond à vos questions de halakha.
Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, Torah Box Radio depuis Jérusalem, bienvenue dans notre émission Quand le Rav vous répond. Nous espérons que vous vous portez bien, vu que nous sommes sur la fin des vacances, j'espère que vous passez également de bonnes vacances. Je suis le Rav Michael Abessera, je suis là pour répondre à vos questions de Halakha pendant l'heure qui suit Bezrat Hashem. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes ces questions avec l'aide de Dieu, comme il se doit, vous aussi. Vous êtes invité à nous envoyer vos questions par email radio@torah-box.com. Je répète, radio@torah-box.com. Et nous tâcherons, Be'ezrat Hashem, d'y répondre au cours de cette émission. Ne bougez pas, restez connectés, car juste après une petite courte page de pub, nous verrons ensemble tout plein de questions, notamment des questions de kashrout, des questions sur les halakhot de Shabbat. Et donc nous nous retrouvons à tout de suite pour Quand le Rav vous répond.
Quand le Rav vous répond, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Quand le Rav vous répond, le Rav Michael Abessera répond à vos questions de Halakha.
Rebonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Quand le Rav vous répond. Nous allons traiter de vos questions de Halakha. Commençons tout de suite avec une question qui m'a été adressée cette semaine par Yoel. Peut-on cuire un élément neutre dans une casserole viande pour ensuite les manger avec du fromage? Ok, je vais donner un exemple concret qui va essayer d'expliquer un petit peu cette question. Est-ce que, par exemple, on a droit de cuire des pâtes? Donc, c'est un élément qui est ni viande ni lait, c'est un élément qui est totalement neutre. Est-ce qu'on a droit de cuire des pâtes dans une casserole viande et ensuite les mettre dans une assiette lait et mettre du fromage sur ces pâtes? Alors, pour répondre à cette question, il y a beaucoup de notions auxquelles il faut qu'on fasse référence. Très brièvement, alors, on sait tous que dans la Torah, il y a écrit « Lote vachel gedi bachalev imo ». Tu ne cuiras pas le lait, l'agneau dans le lait de sa mère. De là, on a appris l'interdiction de manger, cuire et de profiter de tout mélange de fromage et de le produit laitier avec de la viande, que ce soit de la viande de bovin, de la viande de volaille. Tout ça, ça change rien. À partir du moment où la viande et le produit laitier ont été cuits ensemble, il s'agit d'un interdit de la Torah. Pour les produits qui sont à base de viande de volaille, il s'agit d'un interdit qui n'est pas d'ordre rabbinique. Et de la même manière, si jamais on n'a pas mélangé au moment de la cuisson on n'a pas mélangé le lait et la viande, on les a mélangés qu'après, il ne s'agit pas d'un interdit de la Torah. En tout cas, D'après la Torah, on apprend dans la Torah, Loté Vachel Gedi Bachalavimo, tu ne cueilleras pas l'agneau dans le lait de sa mère. De là, on apprend l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Il faut savoir que, mis à part l'interdit de mélanger le lait et la viande, il y a également un interdit qui est celui de profiter du lait et de la viande. Et à part ça, il faut savoir que le goût de lait ou le goût de viande, je vais tout de suite expliquer, il est considéré comme de la viande ou comme du lait. Par exemple, on sait que lorsqu'on cuit de la viande dans une casserole, les parois de la casserole vont s'imprégner du goût de la viande. Le goût de la viande s'appelle ta'am. Toute chose qui est ta'am devient comme la viande elle-même. Donc j'ai cuit de la viande avec... dans une casserole, la casserole a le goût de la viande. J'ai cuit du fromage dans une casserole, j'ai cuit du lait dans une casserole, cette casserole a le goût de lait. Ce n'est pas seulement dans une casserole, ça peut également être dans d'autres aliments. Si par exemple j'ai cuit de la viande et une pomme de terre dans... j'ai fait bouillir de la viande et une pomme de terre dans la même eau, même si je rince la pomme de terre pour enlever tout excédent de viande, etc., la viande, la pomme de terre est imbibée de ce qu'on appelle de goût de viande. Donc, il faut savoir que d'après la Torah, le goût de viande ou le goût de lait est considéré comme de la viande ou comme du lait. Par contre, il faut savoir que si jamais il y a plusieurs étapes, alors vu que le goût perd de sa force au fur et à mesure, alors dans certains cas, on pourra se montrer un peu plus permissif. J'explique. Si par exemple, j'ai cuit de la viande dans une casserole, donc la casserole a du goût de viande, mais j'ai ensuite cuit donc justement mes pâtes ou j'ai cuit du riz dans cette casserole, le goût de viande qui va arriver dans le riz ou dans les pâtes sera un goût dit second, ce sera un second goût, ce ne sera pas un goût de direct, ce sera un goût indirect. La viande a donné du goût à la casserole a donné du goût au riz. C'est ce qui s'appelle noten ta'am bar noten ta'am. On a deux étapes afin d'arriver au goût de lait ou au goût de viande qui va être présent sur le... qui va être présent sur justement, qui va être présent dans ses pâtes ou dans ce riz. À partir du moment où le goût est dit de deuxième intensité, il est noten ta'am bar noten ta'am, si jamais a posteriori, on commence tout d'abord par expliquer a posteriori, si a posteriori je les ai mélangés avec du lait ou avec du fromage, d'après tout le monde, il sera permis de les consommer, il n'y a aucun problème, puisque le goût étant de deuxième intensité, étant un goût qui n'a pas une forte intensité, qui ne donne pas tellement de goût, on peut, à partir du moment où ça a été déjà mélangé avec du fromage, il est évident qu'on peut le manger d'après les Sfaradim ou d'après les Ashkenazim. Il y a toutefois une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim par rapport à savoir quelle est la conduite à suivre a priori. Est-ce qu'on a le droit de se lancer dans ce processus a priori, c'est-à-dire je sais que je veux me faire des pâtes au fromage, je sais que la viande, la casserole est une casserole de viande, je veux cuire mes pâtes dans cette casserole de viande afin d'y insérer du fromage. Alors il faut savoir que d'après les Ashkenazim, il est interdit de le faire en vue de rajouter du fromage dans les pâtes. D'après les Sfaradim, il y a une marloquette. Le Rav Shalom Messas, lui, pense que l'avis du Shulchan Aruch est le même que celui d'Irama à ce sujet, hormis une petite nuance qui n'a pas trop d'influence par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre cas exact. En tout cas, d'après Rabbi Shalom Messas, même d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit, a priori, de cuire des pâtes dans une casserole viande afin d'y insérer du fromage, les Khatrila. D'après le Rav Ovadia Yosef, le Shulchan Aruch, lui, autorise de mettre des pâtes dans une casserole viande afin de les manger directement avec du fromage. Toutefois, il faut savoir que même d'après les Ashkenazim et même d'après le Rabbi Shalom Essas, si jamais la casserole n'était pas dite ben yomo, c'est-à-dire qu'on n'y a pas fait utilisation caractéristique, en l'occurrence de viande, dans les dernières 24 heures, le goût de viande étant dans la casserole étant détérioré, on peut a priori cuire dedans des pâtes afin de les mélanger avec du fromage. Je m'explique. On sait tous que, comme on l'a expliqué, lorsque je cuis de la viande dans une casserole, la casserole, elle prend le goût de la viande, elle prend le goût de la viande et donc elle a ce qui s'appelle du ta'am de bassar. Avant 24 heures, ce goût est conservé. Au bout de 24 heures après la cuisson, 24 heures après la cuisson, le goût se détériore. C'est-à-dire qu'il c'est pas seulement qu'il perd de son intensité, mais le goût qui est contenu dans des éléments, dans des parois d'une casserole, etc., se détériore au bout de 24 heures. Lorsque le goût est détérioré, il y a là évidemment beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet, il y a de grandes marloquettes, etc., mais l'avis que l'on retient, en tout cas à la halakha, est que c'est autorisé, même a priori, de cuisiner des pâtes dans une casserole viande, si jamais on n'a pas utilisé cette casserole pour y cuire de la viande dans les dernières 24 heures. Et même si on a pour but de mettre du fromage dans ses pâtes, évidemment, pas dans la casserole de viande, dans un ustensile qui sera un ustensile adapté à cet usage, donc un ustensile qui est lait. Donc, si je veux résumer un petit peu ce qu'on vient d'apprendre, on a appris que dans une casserole, le goût contenu dans la casserole avait le statut de ta'am, il était considéré comme de la viande ou comme du lait. Par contre, si c'était un goût de deuxième intensité, c'est-à-dire que la viande a donné du goût à la casserole a donné du goût à un deuxième aliment qui est neutre, ou bien la même chose avec du fromage, dans ces cas-là, le goût étant de deuxième intensité, si jamais on avait déjà mis du fromage dedans, ou on avait déjà mis en tout cas l'élément inverse, eh ben, a posteriori, c'est permis d'après tout le monde. A priori, il y a une marloquette. D'après Rav Ovadia Yosef, cela est autorisé a priori. D'après Rabbi Shalom Essa, ceci est interdit même pour les Sfaradim a priori. Et d'après le Rama, d'après les Ashkenazim, c'est interdit a priori. Toutefois, s'il s'agit d'une casserole dont le dernier usage avec un élément caractéristique viande ou lait a dépassé les 24 heures, le goût contenu dans cette casserole étant détérioré, entre guillemets, on pourra a priori rajouter de la viande ou rajouter du lait dans cet élément neutre, bien qu'il a été cuit dans une casserole qui est de l'élément inverse. Mais je finis toujours par préciser qu'il faut faire attention de ne pas rajouter le fromage dans la casserole viande, mais on pourra rajouter du fromage seulement dans une casserole ou dans une assiette qui est de lait ou en tout cas de l'élément qui est de la nature de l'élément qu'on rajoute. D'accord ? Sans transition, nous passons tout de suite à la prochaine question qui nous a été posée par David. Bonjour Rav, je voudrais savoir, est-ce que on peut manger un sandwich avec de la viande synthétique, entre parenthèses végétale, mais qui a un aspect de viande, avec du fromage dans un restaurant ? Ok, c'est quelque chose d'assez fréquent. Est-ce qu'on a, en gros, on parle ici d'un cheeseburger parvé, d'accord, parvé ou pas parvé, c'est-à-dire que ou l'élément viande, ou l'élément lait, ou l'élément fromage sont synthétiques, et la viande c'est fait à base de soja, le fromage aussi, ça peut être comme du tofu, quelque chose comme ça, qui ressemble grandement à du fromage. Est-ce qu'on a le droit de manger un sandwich qui a l'air d'être un mélange de lait et viande, mais qui en réalité ne l'est pas? Et la question, elle est-ce qu'on a le droit de manger ça dans un restaurant, donc c'est-à-dire aux yeux et aux vues de tous? Alors, il faut savoir que, en soi, dans ce cas, il n'y a aucun interdit. Mais il existe certaines situations dans lesquelles on peut agir de façon tout à fait permise. Mais les sages ont cependant interdit cette situation, ont interdit d'agir de la sorte, de peur d'éveiller le soupçon chez autrui. C'est ce qui est appelé dans le langage des Chazal, dans le langage de nos Chachamim, dans la Gemara, marit ayin. C'est-à-dire que on va éveiller le soupçon chez autrui par rapport à notre action. Il y a à cela plusieurs problèmes. Le premier, c'est que chaque homme a le devoir de juger favorablement son prochain, ainsi que la Torah nous enseigne. Avec justice, tu jugeras ton prochain. Betzedek tishpot et amitecha. C'est-à-dire qu'il faut juger favorablement son prochain. Donc, il nous incombe à chacun d'agir de manière à ne pas faire faillir son prochain dans son devoir de juger ses semblables favorablement. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre en situation où une personne va croire que je commets un interdit et justement à cause de ça va mal me juger. Dans ces cas-là, j'aurais été au vert. Je vais transgresser l'interdit de l'ifné hiver le titan Mirchol. Tu ne mettras pas devant une personne aveugle une embûche parce que c'est toi qui l'as fait trébucher. Dans ces cas-là, vu que moi, je vais dans une situation où logiquement on va mal me juger, j'ai transgressé cet interdit de l'ifné hiver le titan Mirchol et j'ai fait que mon ami transgresse transgresse le commandement qu'on a de la Torah de juger son prochain favorablement. Donc on ne devra pas se mettre dans une situation susceptible d'éveiller des soupçons chez autrui par rapport à notre comportement. De plus, Et c'est une des raisons qui n'est pas des moindres. Ces deux raisons sont écrites dans Rashi à plusieurs endroits. Il y a beaucoup de différences entre ces deux notions. Peut-être qu'une autre fois, on pourra rentrer plus dans le détail de ces deux options, de ces deux raisons pour lesquelles le maritain a été interdit. Mais en tout cas, la deuxième raison, c'est qu'on risque d'entraîner quelqu'un à faire la même erreur que nous. C'est-à-dire qu'une personne sait que de manger un sandwich avec du fromage et de la viande, c'est interdit. Mais il se dit, si je vois mon ami Yaakov au restaurant qui mange un sandwich avec de la viande et du fromage, c'est que peut-être je me suis trompé, peut-être que la viande et le fromage, c'est autorisé. Donc celui qui va nous voir va être amené à apprendre de nos actions et donc à se rentrer dans un interdit alors qu'il n'en est rien, ceci est totalement interdit. Et lui, il va agir en croyant que ceci est permis. C'est pourquoi il est interdit de cuire de la viande dans du lait de synthèse, à moins d'y déposer un élément distinctif. Par exemple, de déposer la boîte du lait végétal autour de l'ustensile de cuisson. Le Shulchan Aruch nous enseigne qu'on peut apprendre ça de l'interdiction de manger du sang. Dans Parashat Re'e, la Torah nous enseigne qu'on n'a pas le droit de manger et de boire du sang d'un animal. Toutefois, le sang de poisson est autorisé, puisque ce n'est pas réellement du sang à proprement dit. Toutefois, nos sages nous disent que si on a récupéré tout le sang d'un poisson dans un verre et qu'on veut boire le sang, il faudra mettre dedans les écailles du sang, les écailles du poisson dans le sang pour que tout le monde comprenne que c'est du sang de poisson et que ce sang est autorisé. De même, le Rama nous enseigne qu'ils avaient l'habitude de faire un certain plat avec du lait d'amande et ils mettaient des amandes dans le plat afin que tout le monde comprenne qu'il s'agissait de lait d'amande. Les décisionnaires contemporains ont dit qu'il suffisait de mettre un élément qui allait faire distinctif, qui allait nous permettre de nous rendre compte s'il s'agissait d'un lait de synthèse. Donc si par exemple on utilise du lait végétal tel que du lait de coco ou bien du lait de soja, du lait d'amande, il suffit de mettre la boîte de ce lait autour de l'ustensile de cuisson. De ce fait, il est défendu également de manger ensemble deux ingrédients qui ont l'air d'être opposés. Par exemple, le cheeseburger ou bien, c'est également courant dans les pizzas. Certaines pizzerias ont l'habitude de mettre des substituts de saucisson sur la pizza. Alors, de les cuire sur la pizza, c'est évident qu'il est interdit. Dans le cheeseburger, on les cuit pas ensemble. On cuit la viande à part et on rajoute la tranche de fromage par-dessus. Mais dans la pizza aussi, si jamais on met pas le saucisson directement dans le four, mais on le rajoutera juste par-dessus... Beaucoup d'avis pensent qu'il est interdit de le faire. C'est l'avis du Char et du Kafar Haïm dans l'opinion du Shulchan Aruch. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction de maritain même dans ce qui est d'ordre rabbinique. Comme nous l'avons précisé aujourd'hui, auparavant, il y a une différence entre le fait de cuire ensemble le lait et la viande, l'oté vachel, gedi bachalev imo, l'interdit de la Torah est de manger ou de profiter ou de cuire le lait et la viande. Mais c'est qu'on parle d'une interdiction de manger le lait et la viande ensemble, c'est seulement du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble. Je parle de ce qui est de l'ordre de la Torah. Mais nos sages nous ont interdit de manger du lait et de la viande, même qui ont été rajoutés l'un après l'autre, même à froid. Il s'agit ici d'un interdit d'ordre rabbinique, mais en tout cas, ceci est interdit. La question ici est de savoir, est-ce qu'il y a un interdit de maritain d'éveiller soupçon chez autrui, même dans un issour qui est dit d'ordre rabbinique. Donc, d'après le Char et d'après le Kafar Haïm qui dit ça, même d'après le Shulchan Aruch, il y a un interdit de maritain, d'éveiller soupçon chez autrui, même dans un issour qui est d'ordre rabbinique et même dans un interdit qui est d'ordre rabbinique. En effet, bien qu'ils ne soient pas cuits ensemble, l'interdit de consommer est d'ordre rabbinique et il en demeure pas moins que ceci est interdit. Toutefois, il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef, lui, autorise de boire du lait de synthèse après un repas carné. Bien que, après avoir mangé un repas avec de la viande, nous sommes tenus d'attendre 6 heures, certains se montrent un peu moins pointilleux, mais l'habitude en général est d'attendre 6 heures entre un repas carné et une consommation de lait ou de fromage. Le Rav Ovadia Yosef dit que si après un repas de viande, après un repas carné, on décide de boire du lait qui est du lait de synthèse, même on a le droit de le faire sans attendre aucune attente. Mais il ne faudra pas le faire durant le même repas. Toutefois, il faut savoir que l'avis du Rama et telle est l'habitude ashkénaze, et de se montrer moins pointilleux sur tout ce qui est d'ordre rabbinique. C'est-à-dire que tout ce qui est d'ordre rabbinique, on ne craint pas le fait d'éveiller soupçons chez autrui. Il y a à ça beaucoup de raisons. La principale raison, c'est que la personne qui va me voir va se dire certainement que c'est un interdit que je ne connais pas. Et même s'il apprend de ce que moi je fais, il ne transgressera qu'un interdit des rabbanan, entre guillemets. Je ne suis pas là en train de dénigrer les interdits d'ordre rabbinique, mais c'est ce que nos sages nous disent, que si jamais on veut faire une xéra, on veut faire un protocole qui va nous protéger d'arriver à certaines avéras, mais on ne fait pas ça pour se protéger de toutes sortes d'avéras qui sont d'ordre rabbinique. On ne fait ça que pour des avéras, des interdits qui sont d'ordre de la Torah. En tout cas, l'avis du Rama est, telle est l'habitude ashkénaze, c'est de se montrer moins pointilleux sur tout ce qui est d'ordre rabbinique. Je précise que mon arrière-grand-père, le Rav Shalom Essaz, Zichrono Livracha, tient que celui qui désire s'appuyer sur cet avis peut le faire. Il dit, il précise, ainsi je l'ai entendu de plusieurs rabbanim, notamment le Rav Yehuda Bracha, qui était Rosh Kolal Echavedat, le Rav Yosef Luria l'a également écrit dans son livre sur la Kashrout, qu'il tenait que s'il s'agit d'un restaurant qui détient une Théouda de Kashrout, où tout celui qui passe comprend que tout ce qui se fait à l'intérieur de ce magasin est donc suivi d'une Kashrout, et qu'il voit un sandwich avec de la viande et du fromage, va se poser la question, et on lui expliquera qu'il s'agit ici de viande de synthèse ou bien d'un fromage de synthèse, et c'est pourquoi, dans ces cas-là, on peut s'appuyer sur cet avis. En tout cas, donc, dans un restaurant, s'il s'agit d'un restaurant qui est cachère, d'après le Rabbi Shalom Essaz, il y a sur qui s'appuyer, même si on est sfarad. D'après les Ashkenazim, on peut s'appuyer, en tout cas si ce n'est pas cuit, ensemble. Et d'après, par contre, le Rav Odi Yosef, d'après le Kafar Haïm, d'après le Char, il y a lieu ici d'interdire cette chose-là. Il faut savoir que le Tosfot nous enseigne en Maseret Yoma que si on ne fait pas ça en grand public, on fait ça en aparté chez soi, à la maison, et que tous les gens de la maison savent qu'il s'agit de quelque chose de végétal, dans ces cas-là, il n'y a pas lieu de craindre toutes les craintes dont nous parlons, en tout cas lorsqu'il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique. Et donc c'est pourquoi, si jamais quelqu'un désire manger un tel sandwich à la maison, tant qu'il n'a pas cuit la viande et le fromage de synthèse, ou la viande de synthèse avec le fromage ensemble, il veut juste les manger ensemble, dans ces cas-là, il aura sur qui s'appuyer, c'est l'avis du Tosfot. Le Plétir ajoute que s'il s'agit de quelque chose de courant, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a de la viande qui est végétale, il y a par exemple des schnitzel au maïs, ou des schnitzel à la pomme de terre, en Israël, c'est quelque chose de très très répandu. Si quelqu'un voit quelqu'un qui va manger du fromage avec un schnitzel, il va comprendre qu'il s'agit ici d'un schnitzel qui n'est pas un schnitzel de poulet, mais qu'il s'agit ici d'un schnitzel de maïs ou quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi dans ces cas-là, on peut se montrer indulgent. Tel est l'avis du Plétis. Donc on l'aura compris. Est-ce que on peut manger un sandwich avec de la viande synthétique ou avec du fromage synthétique, mais qui est mélangé avec l'élément inverse dans un restaurant? Il y a là un grand débat, et il faut savoir que même dans certains cas, si on ne transgresse pas d'interdit, il y a un interdit qui s'appelle maritain, c'est-à-dire éveiller soupçon chez autrui. Dans tout ce qui est d'ordre de la Torah, il n'y a aucune permission à ce sujet. Dans tout ce qui est d'ordre rabbinique, il y en a une machloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, et on a souligné que le Rav Shalom Essaz disait que même les Sfaradim qui désiraient s'appuyer sur l'avis du Rama et qui se montraient un peu plus permissifs pouvaient le faire sous certaines conditions que nous avons expliquées. Donc, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous adresser vos questions par email radio@torah-box.com. Je répète, radio@torah-box.com. Et pour ma part, je vous propose que l'on se retrouve de suite après une pause musique Be'ezrat Hashem.
רציתי להפתיע, האדמה תרגיע, רציתי להגיע, רציתי לב לשפוך, קיוויתי שאעבור, חשבתי להניע, אורות מהרקיע, שמחת המשפיע, הכנתי הכל,
הולך רחוק בשתי רגליים, הרים גבוה את הידיים, את שק חזק עד השמיים, ואצום את העיניים עד שמילה אחת תצא באמת, באמת, עד שניגון אחד
כמו גיבור לצאת למרות הגשם להירתם עד עצם נגד כיוון הזרם רציתי את הכל קיוויתי שעבור מוכן למסור את הנפש אפילו בלי שום רגש רציתי להמשיך ותבוא
Rebonjour à tous et à toutes, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez quand le Rav vous répond. Chaque semaine, nous essayerons avec l'aide d'Hachem de répondre à vos questions de Halakha, tout ce qui concerne les lois de la Torah. Vous aussi, vous pouvez nous adresser vos questions par email radio@torah-box.com. Je répète, radio@torah-box.com. Et si elles sont sélectionnées, Bezrat Hachem, elles pourront passer à l'antenne. On reprend tout de suite avec une question qui nous est parvenue cette semaine de Nadine. Bonjour Rav, je suis en vacances avec ma famille dans une location dans le sud de la France. Est-ce que je peux cachériser le four de la même manière que je le cachérise chez moi entre le lait et la viande? Excellente question. Alors, est-ce que lorsqu'on part en vacances, dans une maison qui est donc louée toute l'année ou qui est louée souvent, je précise louée également à des non-juifs, est-ce qu'on peut cachériser le four de la même manière qu'on cachérise le four chez nous entre le lait et la viande? Alors, je vais commencer par expliquer le processus de cachérisation d'un four entre le lait et la viande. Alors, pour celui qui a un four à pyrolyse, ok, c'est le plus simple, puisque la pyrolyse monte à des températures très élevées, proches de 500 degrés, 450-500 degrés, il n'y a aucun problème, on met les grilles du four dans le four et on met le four sur pyrolyse. Et le four devient parvé, même si on n'a pas attendu 24 heures, même si le four n'était pas entièrement propre, c'est-à-dire étincelant, mais il suffit juste que lorsqu'on ouvre le four, on voit qu'il n'y a plus de reste, que tout a vraiment été réduit en cendres. À partir de ce moment-là, le four est cachère entre le lait et la viande. Maintenant, si jamais on n'a pas un four à pyrolyse, alors ce qui est préconisé, c'est qu'après l'utilisation D'une espèce, que ce soit le lait ou que ce soit la viande, on attend 24 heures et ensuite on va nettoyer un tout petit peu le four et on va mettre le four à la température la plus haute jusqu'à que le four arrive à cette température. En général, on préconise que ce soit 250 degrés à peu près. C'est en général la température la plus haute du four. Et ainsi, on peut cachériser le four, du lait à la viande. D'accord ? Donc, si jamais j'ai utilisé mon four pour faire une pizza, ok, on était mardi à 14h, j'attends jusqu'à mercredi 14h, mercredi 14h, j'enlève, je nettoie bien les parois du four, ensuite j'allume mon four à haute température, la température la plus haute du four, et je laisse le four se réchauffer, jusqu'à que il arrive à la température escomptée, et ensuite le four est devenu parvé. Je tiens à préciser que les Ashkenazim n'ont pas l'habitude de rendre les ustensiles de lait, viande et les ustensiles de viande, lait durant l'année. Ils se permettent de le faire seulement à Pessah. C'est une Khumra qui est écrite dans le Magen Avraham. Le Khatam Sofer était très makpid là-dessus. Mais l'habitude des Sfaradim est de se montrer moins pointilleux là-dessus. Par rapport à cachériser le four dans une location, il faut savoir qu'il y a certaines différences entre le lait et la viande et la cachérisation des ustensiles qui se trouvent dans une maison de location. Les ustensiles qui se trouvent dans une maison de location n'ont pas seulement été imbibés ou imprégnés du goût de lait ou de viande, ils ont été imbibés de goût de choses interdites. Des fois, ça peut être de viande interdite, ça peut être de porc, ça peut être de toutes sortes de viandes qui n'ont pas eu de la shrita, etc., de fruits de mer, etc. Et donc, ces ustensiles sont interdits totalement. Les ustensiles qui ont eu ce genre de cuisson qui ont été faits dans leur sein, on dit qu'elles s'appellent Isura Bala. Elles ont été imbibées d'un goût de Isour. Pour enlever un goût de Isour, on ne peut pas se permettre de faire ce qui s'appelle l'ibunkal, c'est-à-dire mettre le four à la plus haute température. Il faut absolument mener le four ainsi que tous les ustensiles à une chaleur qui s'appelle l'iboun khamour, et c'est ce qui correspond à 450-500 degrés, c'est-à-dire qu'on fait rougir l'objet jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles qui sortent de lui. Et le Rav Moshe Feinstein nous a déjà enseigné qu'on n'a pas réellement besoin de faire rougir et que des étincelles sortent, surtout de nos jours où les ustensiles utilisés ne le permettent pas, dû les matières qu'on utilise, etc., avec le progrès de fabrication de tous nos ustensiles. On ne pourra pas arriver à un tel degré de chaleur tel que c'est décrit dans la Torah, mais il s'agit bien ici de mesures de degrés en degrés Celsius, etc. Et donc, lorsqu'on utilise la pyrolyse, dans ces cas-là, on sait que tous les goûts ont été neutralisés, que tout a été réduit en cendres. Et donc, même si il a été cachérisé à l'intérieur du cochon ou quelque chose comme ça, qui est totalement interdit, ou même de la viande pas cachère, ou même toute autre chose, du poisson qui peut être pas cachère, etc., à partir du moment où on lui fait la pyrolyse, le four peut être cachérisé. Mais on ne pourra pas le cachériser de la même manière que l'on cachérise son four du lait à la viande ou de la viande au lait. Le lait et la viande séparément, étant chacun quelque chose de permis, d'autorisé d'après la Torah. Il s'agit ici de ce qui s'appelle Etera Bala. On parle d'un goût qui a été interdit, qui a été permis. On parle d'un goût permis. C'est juste interdit de le mélanger avec de la viande. Mais en tant que tel, il est autorisé. Et donc, c'est pour ça qu'on se permet d'être plus mekel, on se permet de faire ce qui s'appelle un liboun kal. En réalité, la différence est que lorsqu'on utilise des ustensiles à sec, on est obligé de les cachériser, ce qui est dit à sec, c'est-à-dire par une flamme. On kebolo, karpolto, de la même manière que l'ustensile a été rendu interdit, c'est comme ça qu'on va le rendre kasher. S'il a été rendu interdit à sec, il faut le rendre kasher à sec. Par contre, si c'est quelque chose qu'on a utilisé en cuisinant avec une sauce, alors kebol o karpolto, de la même manière que le issour, que l'interdit a pénétré la casserole avec de la sauce, on pourra le faire sortir avec ce qui s'appelle la hag'ala. La différence entre Eterabala et Isurabala, c'est que dans Eterabala, si par exemple on a quelque chose qui a été baloua, qui est quelque chose qui est imprégné de lait, on veut juste enlever le goût du lait, on peut lui faire hag'ala, même si ça a été baloua sec, même si ça a été imprégné à sec, on pourra le cachériser par le processus de hag'ala, c'est-à-dire le tremper dans l'eau bouillante. De là, nos sages ont appris que le liboun kal, c'est-à-dire c'est une cachérisation à sec qui fait monter l'ustensile à une certaine température, mais c'est sûr que c'est une température qui est moindre que le liboun khamour et marche tout autant. marche tout autant, mais c'est seulement dans le cas où il s'agit de quelque chose qui est Eterabala. Donc on a une différence entre lorsque les ustensiles que l'on va utiliser ont été imprégnés de quelque chose d'interdit, ou bien ils ont été imprégnés de quelque chose d'autorisé. Si ils ont été imprégnés de quelque chose d'interdit, comme par exemple lorsqu'on va dans une maison de location, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, et certainement qu'il y a eu aussi des non-juifs qui se sont trouvés dans cette maison et qui ont pratiqué leur cuisine, on devra cachériser tous les ustensiles avec la plus grande précaution. On ne pourra pas cachériser le faux en faisant juste un liboun kal. Il faudra absolument procéder à un liboun khamour, procéder à la cachération avec de la manière la plus stricte et donc avec la plus grande chaleur. Et hormis la pyrolyse, il n'y a aucune autre manière de cachériser le four. Mais attention, ceci est vrai également pour les autres ustensiles de la maison. Il faudra faire attention lorsqu'on veut cachériser par exemple une casserole. Alors oui, on pourra lui faire agala, mais dans ces cas-là, il faudra attendre 24 heures depuis la dernière utilisation avant de pouvoir faire la agala. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune différence. Est-ce que ça a été cachérisé? Si on veut cachériser cela du lait ou si on veut cachériser cela de la viande, hormis que si on veut cachériser du lait à la viande ou du viande au lait, on n'a pas besoin d'attendre 24 heures lorsqu'on fait agala, bien que aujourd'hui, dans tous les cas, nous attendons 24 heures. Donc j'espère que j'ai été clair. Si vous vous trouvez dans votre location dans le sud de la France et que vous nous entendez, sachez que pour cachériser le four, la seule manière de cachériser le four qu'on récupère d'un non-juif, c'est de lui faire une pyrolyse. Il n'y a aucune autre manière de cachériser le four et cela ne ressemble pas à la manière de cachériser le four chez soi entre le lait et la viande, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de pyrolyse de programme pyrolyse dans leur four. Et sans transition, nous passons tout de suite à la prochaine question. Bonjour Rav. Est-ce qu'on a le droit de toaster son pain directement sur la plata le jour de Shabbat? Donc c'est une question sur les halakhot de Shabbat, ça nous fait un peu changer. Jusqu'à présent, nous avons eu des questions sur la kashroute. Ah, maintenant, nous passons à une question sur l'halakhot Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire toaster son pain directement sur la plata le jour de Shabbat? Alors, il faut savoir qu'il y a à ce sujet de grandes machloquettes. D'après beaucoup de décisionnaires, notamment le Kafar Haïm, le Or Lezion, Rav Ben Tzion, Abba Shaoul, ceci est interdit car c'est comme créer un nouvel aliment. D'accord ? Lorsque j'ai une tranche de pain et je la pose sur la plata et je vais la faire toaster, la faire biscotter, j'obtiens quelque chose que je n'avais pas avant. Et donc il y a là quelque chose réellement, entre guillemets, un nouveau bichoul, une nouvelle afia. Et c'est pour ça que le Kafar Haïm et le Or Lezion se montrent très pointilleux là-dessus et interdisent totalement de faire toaster son pain sur la plata le jour du Shabbat. Le Rav Ovadia Yosef, lui, autorise ce procédé en s'appuyant sur le Marsham, qui pense qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle création. Mais dans tous les cas, il faut savoir que si on ne pose pas le pain dans ce but, ok, par exemple, j'ai l'habitude de rentrer de la choule à 10h30, ma femme a mis les chalotes sur la plata à 10h15, et finalement j'ai traîné et le pain a un peu toasté parce que je suis arrivé un peu en retard. Dans ces cas-là, il n'y a aucun interdit de consommer le pain, et il faut savoir que la femme qui aurait posé le pain dans ce cas-là a également commis aucun interdit. Premièrement, du fait que le Maharsham lui autorise, a priori, de faire toaster son pain, mais en plus, dans ce cas-là, elle n'avait pas l'intention de faire toaster son pain et donc de créer quelque chose de nouveau. Je soulignerai tout de même que le fait de poser des aliments directement sur la plata est soumis à discussion. Il y a ce qui s'appelle un interdit de Mirzé Kemevachel. Non seulement le jour du Shabbat, nous avons l'interdiction de cuisiner en tant que tel, nous avons également l'interdiction de cuisiner, quand je dis de cuisiner, c'est-à-dire de faire cuire des aliments, nous avons également l'interdiction de faire quelque chose qui ressemble à une cuisson, c'est-à-dire que lorsqu'une personne va me voir, elle va se dire « Ah, cette personne est en train de cuire, est en train de cuisiner », dans ces cas-là, cela est également interdit. Il faut savoir, est-ce que le fait de poser des aliments directement sur la plata est soumis à cet interdit-là de Mirzé Kemevachel ou non. Le Rav Ovadia Yosef donne plusieurs raisons pour autoriser. La première raison est que on parle ici d'une plata qui est dite plata de Shabbat. Et puisque on parle de la plata de Shabbat, il est évident que personne n'a l'intention de cuire quoi que ce soit et de transgresser un interdit sur la plata de Shabbat. La deuxième chose que nous dit le Rav Ovadia Yosef, c'est que personne n'a l'habitude de cuire ou de cuisiner sur une plata. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de craindre à cet interdit-là de mirzek et mevachel sur une plata de Shabbat. Toutefois, il faut savoir que le Rav Shlomo Zalman Oyerbar, ainsi que mon arrière-grand-père, le Rabbi Shalom Messa, Zichonam Livracha, disait qu'il y a oui un interdit de poser des aliments directement sur la plata, même s'il s'agit d'éléments qui sont secs et qui ne sont pas soumis à l'interdit de bichoul et à l'interdit de cuire. Évidemment, on parle par exemple quelqu'un qui a du riz au frigidaire et qui souhaite réchauffer son riz, le riz est dénué de toute sauce, il veut le poser sur la plata. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit de bichoul, il n'y a pas d'interdit de cuisson, puisque le riz est déjà cuit et que le riz est sec. On pourrait donc le réchauffer. Mais, d'après Rav Ovadia Yosef, on peut le poser directement sur la plata puisque la plata n'est pas un endroit de cuisson et donc il n'y a pas de mirzek et mevachel. Mais d'après Rav Shlomo Zalman Oyerbar et d'après Rabbi Shalom Essas et d'après encore beaucoup de Talmidei Chachamim, il y a un interdit de mirzek et mevachel puisque je vais venir poser ma casserole directement sur la source de la chaleur, sur la source du feu, et donc dans ces cas-là c'est interdit. C'est pourquoi le Rav Shalom Essas lui préconisait de recouvrir avec du papier aluminium épais la plata afin de montrer que je fais une séparation entre la base du feu et les aliments que je poserai. Le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch nous dit qu'on peut également poser une casserole à l'envers et poser dessus les chalot, ou bien de poser les chalot directement sur les casseroles qui se trouvent sur la casserole qui se trouve sur la plata. En tout cas, il y a là-dessus une marloquette, mais celui qui veut s'appuyer sur le Rav Ovadia Yosef et de poser directement son pain ou quoi que ce soit qui est sec sur la plata, Avada évidemment sur qui s'appuyer, et celui qui veut se montrer plus pointilleux à ce sujet aura Bezrat Hashem la bénédiction de Rav Shlomo Zalman Oyerbar et de Rabbi Shalom Messas. Bezrat Hashem, nous nous retrouvons directement après une courte page de pub. Je tiens à vous informer tout de même que vous pouvez également nous faire parvenir vos questions par email radio@torah-box.com. Je répète, si vous voulez nous faire parvenir vos questions, radio@torah-box.com, et nous essayerons Bezrat Hashem d'y répondre dans les prochains numéros où nous nous retrouvons, dans les prochaines émissions. Et nous nous retrouvons tout de suite pour une courte page de pub.
Quand le Rav vous répond, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les Rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Quand le Rav vous répond, le Rav Mikael Abessera répond à vos questions de Halakha.
Et nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de notre émission. Nous vous rappelons que vous pouvez vous aussi nous adresser vos questions par email à l'adresse radio@torah-box.com, radio@torah-box.com, et nous nous efforcerons Be'ezrat Hashem d'y répondre. On passe tout de suite à la prochaine question qui nous a été, qui nous est parvenue de Nathalie. Utilisation d'un four avec mode Shabbat, le jour du Shabbat. Bonjour Rav, est-ce qu'il y a des restrictions pour l'utilisation d'un four en mode Shabbat plus que pour la plata? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, Baruch Hashem, même en France, on peut avoir des fours qui ont ce qu'ils appellent un mode Shabbat. Ça fait comme un mode plata, ça garde une certaine température pendant tout Shabbat. Les aliments qui restent restent chauds, mais ne cuisent pas plus, ou en tout cas restent à une chaleur minimale afin qu'on puisse les servir chauds. Alors il faut faire attention tout d'abord à ce que si jamais on ouvre la porte du four pendant Shabbat, c'est fréquent souvent le vendredi soir, il faut faire attention que tous les éléments qui sont à l'intérieur du four soient bien cuits. Parce que sinon, lorsque je referme le four, lorsque je referme la porte du four, je vais créer une intensité de chaleur dans le four, et donc je risque de rapprocher, je risque d'amener la cuisson des éléments qui ne sont pas encore cuits. Ils vont cuire entre guillemets plus rapidement. C'est-à-dire que si je n'avais pas fermé la porte du four, ils auraient été prêts demain à 10h. Maintenant que je ferme la porte de la porte du four, ils seront prêts demain à 8h. J'ai donc, par le fait d'avoir fermé la porte, j'ai rapproché la cuisson des éléments qui n'étaient pas cuits à l'intérieur du four. C'est la première chose à laquelle il faut faire attention lorsqu'on utilise un four sur une plata. Ceci n'est pas le cas. Je peux sortir autant de casseroles que je veux de la plata. Les casseroles qui sont sur la plata, je ne leur porte aucune atteinte. Toutefois, il faut savoir que même sur les casseroles qui sont sur la plata, si par exemple j'ai quelqu'un à préparer une dafina ou un chulent et il y a dedans des os à moelle, etc., il sait que les os ne sont pas encore totalement cuits. Le fait d'ouvrir la casserole et de la refermer, en refermant la casserole, je vais créer un effet d'augmentation de température à l'intérieur de la casserole et donc je vais rapprocher la cuisson de ces os-là. Dans ces cas-là, il faudra faire attention de ne pas ouvrir la casserole même sur une plata. Donc c'est le même principe que la porte dans un four qui est en mode Shabbat. De plus, on sait tous, on vient d'en parler, que on a droit de poser des éléments qui sont secs mais froids, qui sont déjà cuits mais qui sont secs, par exemple du riz. Ok, on a préparé du riz Erev Shabbat. Je veux maintenant réchauffer mon riz. Je vais poser mon riz sur la plata pendant Shabbat. D'accord ? Dans ces cas-là, j'ai le droit de le faire d'après le Rav Ovadia Yosef et d'après certains autres poskim. Ceci est interdit puisqu'il y a le problème, comme on a expliqué, de Mirze Kemevachel. En tout cas, par rapport aux lois de cuisson du riz, il n'y a aucun problème. Le riz va être, entre guillemets, réchauffé, mais ne va pas cuire. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas le droit, on aura le droit de le poser sur la plata. Mais s'il s'agit d'un four, bien qu'il soit en mode Shabbat, il faut savoir que beaucoup de décisionnaires interdisent d'agir de la sorte. C'est-à-dire que même le Rav Ovadia Yosef sera d'accord avec les autres décisionnaires que cela est interdit. Pourquoi ? Puisque le four est, oui, un endroit où on a l'habitude de cuire les aliments, on a l'habitude de cuisiner les plats, et donc il y aura, oui, un interdit de mirze kemevachel, c'est-à-dire qu'on aura l'air d'être comme quelqu'un qui cuisine. On aura l'air de cuisiner pendant Shabbat, et ceci est interdit, c'est un interdit de Shabbat. Nous passons tout de suite à une prochaine question. Bonjour Rav, est-ce que on a le droit de jouer au football le jour du Shabbat ? Ok, très bonne question. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la Torah nous enseigne que Vechibadeto me'asod derachecha. Tu devras, c'est plutôt le Navi dans Yeshaya, nous dit qu'il faudra respecter le jour du Shabbat et ne pas emprunter, ne pas faire tes chemins de la même manière que ceux de la semaine, et tu ne parleras pas de la même manière que tu parles la semaine. Vechibato me'asod derachecha mimetzochevtzecha vedaber davar. Et nos sages nous enseignaient dans Masechet Shabbat, page 113a, me'asod derachecha, de prendre des chemins distincts, shelo yehe iluchecha shel Shabbat ke iluchecha shel Chol. Tu ne devras pas marcher de la même manière que tu marches en semaine le jour du Shabbat. Nos sages nous ont enseigné que, la Gemara nous enseigne que la Kavana, l'enseignement qui nous est enseigné ici, est qu'il est interdit de courir le jour du Shabbat. Donc on n'a pas le droit de courir le jour du Shabbat, premier problème pour jouer au football. Toutefois, il faut savoir que le Shulchan Aruch nous enseigne dans le Siman Shin Aleph 301 Alinéa B, que si jamais on parle de jeunes, Katouv, Bahurim, Amitengim, Bimritzatam, les jeunes qui ça procure du bonheur et des bienfaits de courir et des sauts, ont le droit de le faire le jour du Shabbat. Donc, si quelqu'un a quelques bénéfices corporels, il se sent bien, etc., ça lui fait plaisir de courir le jour du Shabbat, il a le droit de courir. Donc, par rapport au fait de courir le jour du Shabbat, il pourra jouer au football. Il faut savoir cependant qu'il y a un autre problème. C'est le problème de Mouktsé. Le Shulchan Aruch nous enseigne dans le Siman Shin Chet, c'est-à-dire 308, à la linéa 45, que c'est interdit le jour du Shabbat et du Yom Tov de jouer avec un ballon. Pourquoi c'est interdit le jour du Shabbat ou du Yom Tov de jouer avec un ballon? Il y a à cela plusieurs raisons. Le Beit Yosef ramène deux raisons. La première raison d'interdire, c'est parce que il y avait une partie de Yerushalayim qui s'appelait Tour Shimon qui a été détruite parce qu'ils jouaient au ballon le Shabbat, et le fait de jouer au ballon le Shabbat, ça a apporté beaucoup de bitul Torah, c'est-à-dire qu'on a les jeunes allaient jouer au foot et ont délaissé la Torah le jour du Shabbat. C'est pourquoi une partie de Yerushalayim qui s'appelait Tor Shimon a été détruite le jour du Shabbat. La deuxième raison est parce que le ballon était Mouktsé Mechamat Goufo, c'était pas l'utilisation de quelque chose comme balle n'était pas une utilisation suffisamment importante afin de lui donner une importance comme un ustensile qu'on utilisait pour manger ou boire. Sur ce, le Rama nous enseigne, le Rama, c'est telle est l'habitude d'Ashkenazim, qu'on a l'habitude d'être mekel, de se montrer moins pointilleux par rapport à l'utilisation du ballon le jour du Shabbat, et que donc on aura le droit d'utiliser, de jouer au ballon le jour du Shabbat. Le Mishnah Brura nous enseigne que l'essentiel de l'interdit de jouer au ballon le jour du Shabbat d'après le Shulchan Aruch, c'est le fait qu'il n'a pas eu un nom d'ustensile. Le fait de jouer au ballon le jour du Shabbat ne lui donne pas un nom d'ustensile puisque ce n'est pas une utilisation suffisamment importante. Et sur ça, le Rav Eliashiv est nous enseigner que puisque aujourd'hui il y a des usines qui construisent des ballons, on ne peut pas dire que le ballon n'a pas une importance de par lui-même et qu'il ne s'appelle pas un ustensile. C'est pourquoi, d'après le Rav Eliashiv, et tel est l'avis du Rav Osner, tel est l'avis du Rav Shlomo Zalman Neuerbach, c'est qu'il est rapporté dans le Shmirat Shabbat Kilchata de Rav Neuwirth, Zichrono Livracha, c'est que le ballon, aujourd'hui, a toute son importance et s'appelle un ustensile et n'est donc pas mouktsé. Toutefois, le Orle Tzion, le Rav Ben Tzion Abba Shaul, et tel est l'avis de Rav Avadia Yosef, dans son shoot Yabia Omer, ils craignent ce que le Beit Yosef nous a dit. La première raison, c'est que puisque a été détruit une partie du Yerushalayim à cause du ballon, jusqu'à aujourd'hui, l'interdit de jouer au ballon est en vigueur et elle ne dépend pas du fait de est-ce qu'elle a une appellation d'ustensile ou pas. D'accord ? Donc c'est pourquoi, d'après le Mishnah Brura aujourd'hui, on pourra jouer au ballon le jour du Shabbat, mais d'après le Rav Ovadia Yosef et d'après le Orle Tzion, les poskim sfaradim, entre guillemets, on ne pourra pas jouer au ballon le jour du Shabbat. Il faut savoir que le Mishnah Brura précise que ce qu'on a le droit de jouer au ballon le jour du Shabbat, ce n'est pas en extérieur. Parce que lorsqu'on joue en extérieur, il y a un risque d'être ce qu'on appelle machvé goumot. Si on joue sur du gravier, on peut en jouant faire un trou et donc venir à reboucher le trou pour qu'on puisse jouer de manière agréable. Dans ces cas-là, et c'est interdit de jouer de même. Il est interdit de jouer sur de la pelouse puisqu'on risque en jouant d'arracher de la pelouse. Par contre, d'après le Mishnah Brura, on peut jouer sur du goudron ou bien sur du parterre, un parterre carrelé, puisqu'il y a dans ces cas-là aucun risque d'être ni machvé goumot, c'est-à-dire de reboucher les trous ou bien d'arracher de l'herbe, d'arracher du gazon pendant le jeu. Je finirai également en précisant que cette autorisation n'est seulement dans le cas où il y a un hérouve. S'il n'y a pas de hérouve et qu'on joue sur la propriété publique, en tout cas pas sur ce qui s'appelle une propriété privée, un endroit où on n'a pas le droit de porter le jour du Shabbat, le fait de jouer au ballon s'appelle porter. Et donc, s'il n'y a pas de hérouve, on ne pourra pas jouer au ballon du tout, en tout cas même pas dans les parties, entre guillemets, dites communes, puisque même là-bas, il y a besoin de ce qui s'appelle hérouvé chatzerot, et donc on ne pourra pas jouer au ballon. Je précise juste que c'est ce que je viens de dire est vrai seulement pour la halakha, mais il est évident que tout celui qui veut se montrer plus pointilleux à ce sujet doit se montrer plus pointilleux et ne pourra en aucun cas être Mickaël devra se montrer léger à ce sujet. Il faut savoir que les halakhot de Shabbat sont très importantes et que le Shabbat est la source de la bénédiction dans le monde. Je finis très vite avec une dernière question. Bonjour Rav, mes enfants aiment faire des tentes le jour du Shabbat avec des couvertures pour jouer. Est-ce que cela est autorisé? Alors, il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de construire une tente le jour du Shabbat. Que ce soit une tente qui est fixe ou une tente qui n'est pas fixe. Par contre, il faut savoir que, qu'est-ce qui s'appelle une tente fixe ou une tente pas fixe? Une tente qui n'est pas fixe, c'est-à-dire une tente où il n'y a pas de mur, il n'y a qu'un toit. Créer un toit, c'est interdit parce que ça s'appelle Oel Arai. Mais si on fait un toit et des murs, dans ces cas-là, les murs transforment le toit en un toit, entre guillemets, dit fixe. Ça devient une tente qui est fixe. C'est pourquoi des enfants, lorsqu'ils jouent le jour du Shabbat en créant une tente, il faut leur dire absolument que il ne faut pas faire de toit sur leur tente. Ils peuvent créer des parois, c'est-à-dire des murs, mais ils n'auront pas le droit de créer un toit, puisque même s'ils ne font que un toit, il y aura un problème de créer un toit le jour du Shabbat. Et il est interdit de le faire, mais il est également interdit de le détruire. Toutefois, il faut savoir que si c'est une tente qui est déjà construite, mais elle est pliée avec certains replis, le Chazon Ish autorisé de le faire. D'après les autres poskim, ceci est interdit, d'après Mishnah Broura, d'après Rav Ovadia Yosef, mais il faut savoir que, des fois, pour le bien-être des enfants, on peut se permettre de s'appuyer sur la chita du Chazon Ish et de leur permettre d'ouvrir, de déplier, tant que la structure de la tente existe déjà et qu'il faut juste la déplier. Mais sinon, même pour jouer, on n'a pas le droit de construire une tente le jour du Shabbat. Notre émission touche à sa fin. J'ai été très heureux de pouvoir répondre à vos questions. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions par email à l'adresse radio@torah-box.com. Je répète, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse email radio@torah-box.com. On se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Quand le Rav vous répond. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et Be'ezrat Hashem, que nous puissions tous nous réveiller et nous renforcer à l'approche de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, puisque nous rentrons très bientôt dans le mois de Elul. Nous sommes déjà rentrés dans le mois de Elul. Et donc, Be'ezrat Hashem, nous devons tous nous réveiller à la Tshuva et à nous approcher d'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, Bintayim, Eyu Shalom, Ve'besorot Tovot.
שבכל חיי על כפה בוטין עשה.